Bonjour à tous, comme vous le savez, ce podcast est une source inépuisable d'humour et d'originalité, mais pour une fois, on va être un peu terre-à-terre et vous souhaiter à tous une très bonne année 2019. Année qui ne verra finalement qu'un seul événement intéressant, je parle bien sûr de la Coupe du Monde de rugby, dont le coup d'envoi est prévu pour fin septembre. Vous pouvez déjà noter dans vos agendas que le match France-Angleterre aura lieu le samedi 19 octobre à 9h du matin, heure de Paris. Je sais, vous êtes comme moi, c'est dans 10 mois et pourtant on flippe déjà. Sinon, vous êtes bien dans le podcast aux infos sportives passionnantes et accessoirement sur la critique de l'actualité du cinéma, vue par des scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 19. Aujourd'hui, un programme un peu spécial pour fêter cette rentrée, puisque pour la première fois, nous ferons un spécial animation. Oui, nous allons enfin savoir une bonne fois pour toutes quel pays fait les meilleurs dessins animés. Est-ce le Japon avec Mirai, ma petite sœur, les États-Unis avec Spider-Man New Generation, ou notre douce France avec Astérix et le secret de la potion magique? Spoiler, ce n'est pas le Japon. C'est Guillaume au micro, et pour parler de tous ces films, j'ai autour de moi ma petite équipe de filles encore potables pour Yann Moix, à savoir Marie, Cédric, Claire et Fiona. Et pour la deuxième fois de l'histoire de notre podcast, nous avons quelqu'un qui ne fait pas partie de notre collectif. Je vous présente notre deuxième invité, Gus. Alors Gus, la question traditionnelle, est-ce que tu sais twerker?
Très bien.
Oh, j'en étais sûr. Passons au courrier des lecteurs, deux messages aujourd'hui. Le premier d'une Agathe de Lyon, qui veut nous parler de Bohemian Rhapsody et féliciter Fiona pour avoir mis le doigt sur ce qui n'allait pas, c'est-à-dire que le film triche. Le film ne rend pas honneur à la complexité de l'homme qui était Freddie Mercury. Les conflits sont superficiels, l'homosexualité est à peine effleurée et sa relation avec Marie aurait pu être bien mieux travaillée. Par contre, elle n'est pas du tout d'accord avec moi quand je dis que l'acteur ne lui ressemble pas du tout sans ses lunettes. Elle l'a trouvé vraiment canon. Bon, bah écoute, c'est un avis. Merci Agathe. Merci Agathe, oui. Autre message d'une certaine Camille de Los Angeles qui nous dit « Cher Guillaume, j'ai voulu écouter le podcast très prometteur sur les top 5 et flop 5 de l'année, mais on n'entend rien. T'as tout gâché avec ton son pourri. » Eh bien, merci Camille pour ce message de paix. Alors oui, autant pour moi. J'ai eu quelques soucis d'enregistrement la dernière fois. Un des micros a mal enregistré et j'ai joué avec les pistes pour égaliser tout ça. Je vais tout faire pour que ça ne se reproduise pas. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook de C'est quoi le pitch. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole immédiatement. Gus, comme c'est ta première, tu as le droit à un joker. On commence avec Spider-Man New Generation, écrit par Phil Lord et Ronnie Tomman, et c'est Claire qui nous le pitch.
Alors, nous sommes dans l'univers de Spider-Man et on suit le jeune Miles Morales, un adolescent de Brooklyn. Un jour, Miles est piqué par une araignée qui va lui donner à son tour des pouvoirs. Lors d'une soirée, il tombe sur un combat entre donc Spider-Man et le Kaïd. Et durant ce combat, le Kaïd parvient à ouvrir un portail qui mène vers des mondes parallèles et dans le même temps à tuer Peter Parker.
Ah oui, spoil, attention.
Gros spoil. À partir de là, Miles va devoir tout faire pour détruire le portail. Heureusement, dans sa quête, il sera aidé par tout plein de Spider-Man qui viennent des différents mondes parallèles. Voilà.
Très bien, Fiona.
Alors, ce film a été pas mal encensé, je pense, par pas mal de gens, en tout cas autour de moi. Je pense que c'est le cas un peu partout. Et c'est justifié. C'est un très bon film. L'animation est canon, le scénario fonctionne très bien, tout n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, c'est difficile de reprocher quoi que ce soit à ce film qui en plus joue bien avec les codes de Spider-Man, des super-héros, fait du fanservice vraiment bien utilisé, des références qui marchent bien, l'humour vient de manière...
À point nommé,
voilà exactement. Juste la bonne dose qu'il faut et tout est très bien géré globalement.
Très bien, Cédric.
Ouais, je suis assez d'accord. J'ai beaucoup aimé aussi. Il y a quelque chose que j'ai trouvé particulièrement réussi dans le scénario, c'est le point de vue. En fait, on est toujours du point de vue du personnage principal de Miles et on s'attache vraiment à lui. Et quand il y a des scènes d'action et des menaces, en fait, on en vient à avoir peur pour le personnage, ce qui ne m'était pas arrivé dans un film de super-héros depuis très longtemps. Et ça, je trouve que c'est une des grosses réussites du film. Vraiment ce point de vue
De rester vraiment avec le personnage.
Ouais, de rester avec le personnage, de s'attacher à lui, d'arriver à le rendre humain. Y a des scènes avec sa famille, par exemple, qui sont juste esquissées, mais en fait, ça suffit pour rendre le personnage crédible et voir que derrière derrière ses pouvoirs, derrière le super-héros, bah il y a un gamin qui a des problèmes de gamin, à qui on peut s'identifier et du coup ouais ça donne une autre dimension à toutes les scènes d'action en fait.
Alors pour être tout à fait tatillon, il y a quelques scènes où on n'est pas dans son point de vue quand même, notamment les scènes où t'as Fisk avec la Docteur Octopus qui est une femme dans cet univers. Où ils parlent tous les deux, le héros n'est pas là. Mais ça, c'est vraiment
c'est normal, c'est quand c'est le point de vue des méchants.
On reparlera de Mirai tout à l'heure. Là, on est vraiment dans son point de vue. Il n'y a pas une seule scène où il n'est pas là. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ce film incroyablement cool, incroyablement bien rythmé. Et comme je disais, l'humour est extrêmement bien géré. Et ils ont surtout fait une mécanique de répétition où Spider-Man fait OK, je suis Spider-Man. Depuis, je me suis fait piquer par une araignée. Et depuis tant de temps, je fais ça. Et oui, pour les cinq univers. Et
il parle au spectateur en disant. Bon, vous me connaissez, voilà. Je suis Spider-Man, vous m'avez vu dans des films, sur des boîtes de céréales, dans des jouets. Et
ils font même une vanne, ils font une petite pique à Spider-Man 3 qui a été une honte où il danse comme ça, il fait oui, et aussi j'ai aussi fait ça. Et ils reprennent la scène où il est parasité par Venom et il fait un peu n'importe quoi. Et ça, justement, c'est pas une origin story, puisqu'on en a un peu marre de voir comment il s'est fait piquer Spider-Man. Même si c'en est une quand même, parce qu'on voit quand même comment Miles s'est fait piquer. D'ailleurs, j'ai une question pour ceux qui ont compris. D'où venait cette araignée qu'il a piquée? Parce que clairement, elle a les mêmes bugs, les mêmes glitches, où on voit qu'elle elle bug un peu, c'est-à-dire qu'elle vient d'une dimension parallèle et que de toute façon, elle serait morte. Mais d'où vient cette araignée? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Cédric, je te vois pensif.
Oui, écoute, peut-être qu'il y a eu un premier essai d'ouverture du portail et que l'araignée est passée. Mais c'est vrai que c'est pas expliqué dans le film, ça.
Parce qu'en plus, il devrait avoir des pouvoirs multidimensionnels, puisque peut-être que se faire piquer par une araignée qui vient d'ailleurs, peut-être que lui, il aurait pu...
Peut-être que l'araignée est elle-même un Spider-Man d'une autre dimension où il y a des insectes. Peut-être.
Bah, c'est ça, il se trouve... Ah, j'avais pas pensé à ça. Bah oui, mais non, parce qu'en fait, les Spider-Man arrivent, parce que quand ils ouvrent la fusion qui permet d'aller dans cinq dimensions, et en plus, c'est plutôt que c'est ça qui est bien fait. C'est comment ils ouvrent le portail, on voit les scientifiques qui disent oh, on s'est connecté à cinq mondes différents. Et pour ça, quand j'ai vu qu'il y a un autre Spider-Man, je dis mais est-ce qu'il va pas y en avoir un autre? Parce qu'il y a cinq portes dimensions. Et effectivement, il y a les cinq. Et ils mettent Peter Parker dans. Enfin, il met sa tête, et c'est pour ça que je pense que les Spider-Man sont aspirés, et pas les autres. Claire.
Oui, moi, j'ai envie de dire que habituellement, dans les films de super-héros, c'est des intrigues simples, et en fait, qui sont tellement mal écrites que ça en devient on s'y perd. Mmh. Et là, en fait, c'est une intrigue extrêmement... Enfin, on traite des choses assez complexes quand même, les dimensions parallèles, où on pourrait vite perdre un peu pied. Et tout est extrêmement bien expliqué. Et jamais je me suis sentie perdue dans ce film, en fait. Et ça, c'est vraiment... vraiment, je tire mon chapeau. Quoi.
Peut-être
c'est,
parce qu'ils utilisent cinq voix off différentes. Hein.
Mais,
ça aide.
Oui, bien sûr, mais...
Oui, mais il faut y penser.
Il y a quand même... Oui, il y a quand même des bonnes idées d'écriture. Enfin, ça, c'est malin. Tout est malin dans ce film, en fait, je trouve.
Et, alors, tout est malin. On va parler du méchant du film. Il y a Fisk. Il y a l'oncle, finalement, de Miles. Faut me dire, pour moi, c'est un peu le point faible du film. Je veux dire, quel est son plan ? Bah, il va aider un mec que Fisk risque de détruire, parce que ses scientifiques le disent. Attention, si tu continues à faire tes conneries avec les portes multidimensionnelles, ça peut détruire la ville. Lui, il fait ça. Je peux comprendre sa motivation. C'est pour retrouver sa fille et sa femme qui sont morts dans un accident de voiture. Quel est l'enjeu et l'objectif de l'oncle ? Enfin, il va pas détruire une ville où vit son neveu et son frère qu'il aime beaucoup, tout ça pour de l'argent. Ça paraît quand même
non, mais
démesuré.
Fils qui pense pas. Enfin, en fait, je pense qu'ils se disent pas que la ville va être détruite. C'est un risque. Mais tu vois, c'est comme aujourd'hui, on dit le monde il va être détruit, mais tu t'en fiches en fait. Tu te fixes juste sur ton objectif à court terme.
Oui,
mais
oh. Oui. Ah, non, mais que Fisk le fasse, je le comprends très bien.
Non, mais...
Moi, je parle de l'oncle.
L'oncle, c'est l'argent. Et puis voilà.
Ah oui, mais quel intérêt d'avoir de l'argent si la ville va être détruite?
Oui, mais pour lui,
est-ce qu'il est vraiment au courant de tous ses plans? Je pense que c'est un simple exécutant. Hein. C'est un peu ça. Mais par contre, je suis d'accord. Alors, je suis d'accord sur le fait que moi, j'ai un petit manque sur l'oncle, qui est quand même un personnage important par rapport à Miles. Et alors, je trouve que leur relation est cool, ouais. Ça marche vraiment, vraiment bien.
C'est vrai qu'il disparaît un
mais
peu. Mais
on disparaît, du coup, je pense que peut-être parce qu'on est scénariste, mais on voit tout de suite, on sait tout de suite que ça va être lui le un peu le méchant quand il dit Ah, je m'absente pendant quelques jours.
Claire, juste à ce moment-là.
Bah, en fait, moi, ce que j'avais pas vu venir, c'est ce qui lui arrive. Enfin, vraiment, je m'attendais pas à ce qui se passe.
Non, mais est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit lui?
Oui,
le méchant.
Non mais pas au début. Franchement, pas au début. Moi,
non,
j'ai
au
mis
au
du
bout
temps,
d'un petit peu de temps.
Non, quand il disparaît.
Ouais.
Bah, quand que, il l'appelle et qu'il arrive pas à le joindre et tout.
Ah, mais moi, honte à moi, et je m'en suis voulu, mais je l'avais pas deviné. Quand ça arrive, je fais ah, mais oui, je suis con. Cédric, est-ce que toi, tu l'avais vu venir?
En fait, je pensais surtout que l'oncle, il allait mourir, puisque c'est dans la mythologie de Spider-Man. Il doit perdre son oncle, si je me souviens bien.
Bah, oui, meurt. Mais j'avais pas pensé, oncle Ben, mais oui, j'avais pas
mais
pensé.
Oui, c'est, donc en oui, fait, non, c'est que... un personnage qui remplace l'oncle Ben, quoi.
Oui, mais il te montre les cinq autres Spider-Man.
Ils ont tous perdu quelqu'un.
Et justement, il y a une super réplique où quand il est en train de souffrir, il fait « Oui, mais il est en train de vivre son original story. » Ils le disent clairement. Je fais, mais t'inquiète pas, on est tous passés par là, comme si c'était une malédiction de Spider-Man de perdre quelqu'un.
Oui,
et Gwen Stacy aussi, comme tu dis.
Oui, elle perd
Peter, c'est touchant.
Qui est dans l'univers. Et alors Gwen Stacy, mais c'est vrai que moi je suis pas très très familier avec l'univers Spider-Man, mais c'est vrai que Gwen Stacy c'est un personnage important. Et même elle a perdu son Spider-Man, Peter Parker.
Marrant entre guillemets, c'est que Gwen Stacy meurt en fait. Et en fait là il l'inverse dans l'univers de Spider-Man qu'on connaît.
Tu viens de spoiler la BD là.
Voilà, pardon, mais bon, normalement tout le monde le sait. Et Gwen Stacy meurt en fait. Et là en fait Gwen Stacy est l'héroïne et donc elle perd son meilleur ami Peter Parker. Et
il est pas sorti Gwen Stacy dans
une femme
c'était son amoureuse.
Oui, oui Marie, oui, tu seras ravie d'apprendre qu'il y a une femme Spider-Man.
Il y a un cochon de Spider-Man aussi.
Oui.
Oui.
Et là, deux femmes Spider-Man.
Attends, c'est quoi l'autre femme Spider-Man?
Le petit manga là.
Oui, exact, oui, qui eux vient du futur, mais alors ouais, enfin, là pareil, je crois qu'ils ont dit il venait de l'an 2200, elle vient de l'an 3000 quand même. C'est ça les robots de l'an 3000, j'étais un peu déçu quand même. Oui, Fiona.
Non mais alors c'est ça le défaut ou pas du film. Moi, j'ai un peu de mal personnellement avec les histoires de multidimension. C'est pas les histoires qui me plaisent le plus. Et là, ils y sont allés fort, mais avec, donc du coup, il y a un Spider cochon. Il y a une petite mangaka toute kawaii avec un robot Spider Girl.
Et qui elle-même n'est pas dessinée comme les autres.
Oui, qui est
le cochon
dessiné vraiment.
Le cochon qui est dessiné en cartoon.
Ils sont tous dessinés. Le cochon, c'est un cartoon. La manga, c'est un manga. Donc ça, c'est vraiment
très... Spider-Man en noir et blanc, parce qu'il vient des années 30.
Ouais. Donc il y a vraiment plein d'originalité. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas un défaut. C'est un délire, mais... Je sais pas comment dire, mais j'ai vraiment senti qu'ils ont fait ça avec passion, avec cœur. Tu sens que c'est des gens qui s'éclatent à faire ça.
Au service de l'histoire, toujours.
Ah oui, toujours.
C'est jamais gratuit.
C'est jamais gratuit. C'est au service de l'histoire. On sent que c'est des gens qui ont écrit ce qu'ils voulaient voir. Vraiment. Et ça marche bien. On sent qu'ils veulent pas nous arnaquer. Ils sont fait chier. Vraiment.
Alors, je vais parler aussi d'un... Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, je vais parler des rares problèmes que j'ai trouvés.
Pourquoi parle des choses que t'as aimées.
J'ai oublié de dire aussi que j'ai beaucoup aimé le fait que le méchant il a un objectif qui ne soit pas
conquérir
le monde, etc. Ouais. C'est revoir sa femme et sa fille. Ça change un peu, ça marche bien.
Oui, ouais, alors pour parler de ça, sa femme et sa fille, et son fils, je crois, ou sa fille, je sais plus, sont
fille,
morts parce qu'ils l'ont vu en train de tabasser Spider-Man. Je veux dire, tu te doutais de rien, ma grande. T'en poses un mec, toute la presse dit que c'est le mec le plus pourri du monde. Il a des immeubles partout, il y a des relais qui courent plus qu'à la main. Oh mon Dieu, il tabasse quelqu'un, dis donc. Bah, je vais m'enfuir avec mon fils. Et je voudrais revenir sur un des problèmes, je trouve, là où ça va trop vite, c'est qu'évidemment, c'est une origin story assez basique de l'enfant entrer dans l'âge adulte, prendre sa responsabilité. Je trouve qu'il mûrit un peu trop vite, quand même. Et surtout, c'est le symbole de la maturation dans ce film, c'est la balayette que met Spider-Man. Souvent, il dit à Miles, tu n'es pas prêt, il lui met une balayette et puis il le chope par le col. Et à la fin, donc, non seulement il devient plus mûr que le Spider-Man de 35 ans, parce qu'il y a un Spider-Man de 35 ans, et en plus, il se permet de lui faire la balayette. Là, je me suis dit, c'est un peu trop, parce que déjà, le Spider-Man de 35 ans, mais non, mais c'est le symbole de la balayette, et je trouvais qu'il mûrit quand même un peu vite, quasiment, il y a une heure, il n'était pas prêt, il dit, tu n'es pas prêt à faire ça, et là, c'est quasiment le meilleur de tous. Je trouvais que ça allait un peu trop vite. Non, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec moi, Cédric.
Non, on n'est pas d'accord.
Soutiens-moi.
Ouais, je sais pas. Après, c'est normal que le personnage évolue dans ce genre de film.
Ah non, mais je suis d'accord pour évoluer, mais là...
Il met du temps quand même
pour
arriver à prendre confiance.
Je n'ai pas dit qu'il mettait pas de temps. J'ai dit qu'au moment où il l'enferme dans sa chambre et qu'il le saucissonne à sa chaise, là, tu n'es pas prêt. Une heure plus tard, c'est devenu le meilleur de tous les Spider-Man.
Mais oui, mais ça marche.
Ouais.
J'ai pas dit que c'était un gros défaut. J'ai dit quand même, je cherche des petits défauts. Ce film est très bien. Donc je cherche des petits défauts. Et ça m'a. Je me suis dit, bon, les mecs, d'accord, déjà, il peut se rendre invisible. Pourquoi on sait pas.
Oui, mais pareil, on s'en fout, c'est une dimension différente. Il peut avoir des. Pourquoi il peut pas avoir un petit pouvoir alternatif.
Mais parce qu'en général, ils ont des pouvoirs que l'araignée avait.
Bah, regarde l'araignée, elle...
Tu as dit qu'elle toi-même qu'elle glitchait, donc
oui, mais elle glitch parce qu'elle vient d'une autre dimension. Tous les Spider-Man glitchent un peu. Oui, ils sont tous en train d'espèce de
mais
de
du
mourir.
Coup, elle a piqué alors qu'elle vient d'une autre dimension. Donc du coup, peut-être que dans une autre dimension, Spider-Man est invisible.
C'est une très bonne remarque, Fiona, mais bon.
Lawyered.
Je crois qu'on avait dit que c'était lui le Spider. Enfin, c'était l'araignée qui arrivait, qui était le.
On ne sait pas, mais on accepte ça vraiment avec plaisir parce que ça marche bien. Les scènes d'action marchent bien aussi, et là, j'ai beaucoup aimé la relation entre Miles et son père. Voilà.
Oui, elle était très bien faite. Surtout le moment où.
Il est très touchant, le père.
Et d'ailleurs, oui, alors question. Gwen Stacy est arrivée, je crois, 3 jours avant tout le monde. Comment elle a fait pour s'inscrire dans l'école de riches?
Est-ce que quelqu'un peut me répondre? On s'en fiche.
Oui, mais c'est un défaut de scénario.
C'est
on a droit à
défaut de scénario. Non, il a raison, c'est un défaut de scénario. Bon, mais
je me tourne vers Cédric. D'accord, Cédric.
Peut-être qu'elle n'est pas inscrite. Bah alors, comment elle s'incruste.
Et voilà, elle s'incruste.
Pour rencontrer l'autre.
Mais non, mais son but, c'est quoi en plus? Pourquoi est-ce qu'elle vient là? Pourquoi est-ce qu'elle vient dans cette école?
Pour le trouver.
Mais comment elle sait qu'il est là?
Parce qu'elle l'a senti, non? C'est pas
son Spider-Sense.
Je crois que c'est pas ça. Moi aussi, je l'ai vu il y a un petit peu de temps, mais je crois que c'est pas ça. Je crois qu'effectivement, elle sait pas trop. Oui, on sait pas trop pourquoi elle est là, j'avoue. Je m'en souviens pas en tout cas. Ah. Peut-être que nos auditeurs, pas téléspectateurs, on n'est pas encore à la télé,
moi,
nos auditeurs pourront nous dire. Donner tort à Guillaume. Agathe, encore une fois, donne tort à Guillaume.
Va voir le film, rien que pour ça. Très bien. Bon, moi, je crois qu'on a fait le tour de ce film, le tour final. Ah non, Fiona.
Parce que moi, j'ai une énorme critique, mais c'est pas contre le film, c'est contre la traduction française du titre.
Ah, est-ce que tu es allé le voir en français?
Non, c'est la traduction française qui est écrite sur les affiches. Donc en anglais, c'est Spider-Man and the Spider-Verse. Mm-hmm. Et en français, ils ont appelé ça, ils traduit par un titre anglais, un autre, qui est Spider-Man and Next Generation, New Generation. Non, c'est pas New Generation, c'est pas vrai. Donc pourquoi ils ont pas dit Spider-Man dans le.
Miles, c'est la nouvelle génération.
Ouais, mais bon, c'est oui, mais plutôt le titre anglais. Ça veut rien dire. Et pourquoi ils le traduisent par un autre truc anglais, je comprends pas.
Non, mais le problème, c'est que. Mais ça, ils le font souvent. Regarde comme The Hangover, qu'ils ont traduit par Very Bad Trip.
Mais là, c'est vraiment pas justifié.
Oui, non, mais, le titre me choque pas. C'est vrai que le Spider-Verse est plus, colle mieux avec le scénario pur, mais bon, comme dit. Hein, moi qui fais chier avec des petits détails, là, toi aussi, là, quand même, non?
Spider-Man dans les dimensions, je n'en sais rien.
Ah si, j'ai un dernier défaut, mais il n'est pas scénaristique. C'est que comme il y a des gros moments flous, en fait, dans l'image. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça vient de la salle où je suis allé le voir.
Non, en fait, mais... c'est un parti pris de direction artistique, en fait. C'est-à-dire que les personnages ont des trames, comme sur les impressions de vieux comics, et les trames sont décalées. Comme sur les comics où, tu sais, il y avait des défauts d'impression. Mais il y a beaucoup de gens qui ont eu la même remarque que toi.
Oui, parce que moi, ça m'a un peu gêné.
En fait, les flous de profondeur sont gérés comme ça, avec des décalages de trame. Et c'est un parti pris, quoi.
Mais j'ai fait crier le point, comme ça, au cinéma.
Oui, mais il y a même des gens qui ont vu le film qui m'ont dit, mais je crois que j'étais dans une salle 3D et que j'avais pas les lunettes.
Ça va être un problème. Moi, ça va pas déranger, mais c'est vrai qu'au début, par contre, l'animation, alors je l'ai trouvé vraiment canon, mais au début, je me suis dit, ouh, c'est pas très fluide, c'est un peu pénible, et en fait, tu t'y habitues très vite, et après, c'était très fluide pour moi, mais les premières images, enfin, il faut un petit temps d'adaptation.
Ils enlèvent des images, effectivement, pour avoir un effet saccadé.
Un effet comics, vraiment, en fait. Il y a plein de trouvailles visuelles.
La direction artistique est enfin un film de super-héros avec une vraie direction artistique.
Ouais. Où il propose quelque chose.
Ok, parfait. Tour final sur ce film, Cédric ?
Bah moi j'attends le prochain parce qu'évidemment ils vont pas s'arrêter là. J'espère. Et je pense que ça va être plus dur du coup de faire une suite à ce film.
Ah bah moi je te lance le scénario, c'est lui qui va aller dans un univers parallèle. Et comme on sait qu'ils peuvent rester qu'un temps limité, bah il y aura cette deadline où il faut absolument qu'ils trouvent comme ils l'ont fait pour les autres héros. Mais tu vois, Peter Parker, le 35 ans, était presque sacrifié. Là ça va être Miles, le héros auquel on s'est attaché, qui va être en danger. À mon avis, ce sera ça. On prend les paris.
Ouais, rendez-vous dans.
Ou alors une aventure plus classique de Spider-Man avec Miles. Dans son univers.
Et faisons totalement confiance aux scénaristes.
Non, je pense les spectateurs sont beaucoup trop attachés. Ils ont très bien bossé sur le Spider-Man de 35 ans, qui est vraiment le deuxième personnage du film. Et on a envie de voir si ça a marché avec Mary Jane. Oh, on a oublié de parler de ça, mais son histoire avec Mary Jane est vraiment touchante, elle est vraiment sympa. Quand il la revoit, alors que dans son univers, il l'a quitté et tout, c'était.
C'est le Spider-Man bien. Loser. Hein.
Ouais, il est super.
Ouais, il porte un bas de jogging, c'est hyper drôle.
Il a du bide.
Par contre, la Mary Jane.
Il pleure sous la douche.
C'est ça, la Mary Jane de l'univers où vit Miles. Elle s'est remise assez facilement, j'ai trouvé, de la mort de Spider-Man. Ça va. Alors que dans cet univers, ils étaient encore ensemble. Mais bref. Claire ?
Non, mais oui, je recommande un film très créatif. Vraiment. J'ai vraiment passé un excellent moment.
Fiona ?
Un film où des auteurs nous donnent vraiment le meilleur de ce qu'ils ont. Il faut aller le voir et c'est un très bon moment.
Oui, bah franchement, excellent film aussi. On voit que les gens savent écrire et comme tu dis, ils ont adoré, ils aiment l'univers Spider-Man. Ils ont envie de s'amuser avec ça. Et ils arrivent à proposer des nouveautés tout en respectant le comics. Donc une vraie, vraie, vraie réussite. On enchaîne avec Mirai, ma petite sœur, en parlant de vraie réussite. Écrit par Mamoru Hosoda et c'est Cédric qui nous le pitch.
Alors, la vie de Kun, 4 ans, est bouleversée par l'arrivée de sa petite sœur Mirai. Et jaloux de l'attention que ses parents portent à sa sœur, il pique des crises et il est parfaitement insupportable. Mais après chaque crise, il se réfugie auprès d'un arbre. Et là, il est visité par les esprits de sa famille. Il va vivre des aventures, il va rencontrer différents personnages. Un homme étrange qui s'avère être le chien de la famille transformé en humain. Une fille qui prétend être sa sœur qui vient du futur. Une petite fille en colère qui est en fait sa mère à 4 ans et son arrière-grand-père qui a été blessé pendant la guerre. Et au fil de ses aventures, Kun va apprendre d'où il vient et peu à peu trouver sa place dans la famille en acceptant son rôle de grand frère.
Bon alors, il faut qu'on vous explique un peu comment marche ce podcast. J'envoie un mail en disant j'aimerais bien qu'on voit ces films et j'avais proposé Aquaman. Qui est d'ailleurs qui est excellent à aller le voir. Et on m'a dit non, on va voir Mirai, ou Mirai, je viens d'apprendre que ça s'appelle comme ça, c'est bien mieux. J'avais dit, si on va voir ce film, on va entendre des gamins chialer pendant 2 heures. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On entend 2 gamins brailler perpétuellement pendant 2 heures. Et je vais passer la parole à Marie pour avoir confirmation de ceci.
Oui, alors je suis d'accord, c'est un film que j'ai trouvé difficilement supportable d'un point de vue auditif. C'était assez, assez compliqué parce que tu vois des gens qui, capricieux qui, et ronchons qui râlent et qui sont en colère pendant 1 heure et demie. Voilà. On a le même plan panoramique qui est ressorti au moins 6 fois pendant le film parce qu'ils avaient du budget visiblement.
Ça, c'est très japonais ça.
Que pour un. Voilà. Et au final, moi j'ai l'impression. Alors quand tu le pitches, Cédric. Je trouve ça hyper limpide, mais moi, quand je suis sortie de la salle, je ne savais pas vraiment ce que j'avais vu. Je me suis vraiment demandé si c'était le récit d'un petit garçon, effectivement, déstabilisé par l'arrivée de sa petite sœur, si c'était plutôt le récit d'un père qui était complètement absent pour son premier enfant et qui décide de se rattraper pour le second. Du coup, est-ce que c'est aussi l'histoire de ce couple dont l'équilibre change totalement et qui a du mal à se retrouver ? C'est l'histoire du chien. Enfin bon, en fait, c'est l'histoire de tout le monde et personne en même temps et de manière assez superficielle. Et pas extrêmement développée, précise, concrète. Voilà.
Très bien, Gus.
Je suis pas du tout d'accord.
C'est bien, tu es là pour ça.
Ouais, non, j'ai trouvé ça vachement bien. Moi, j'y suis allé, je savais pas trop ce que j'allais voir. Effectivement, ça fait un peu mal aux oreilles au début. Ouais, je pensais 30 minutes. Il hurle pendant 30 minutes. Il y a notamment une scène avant qu'il se tape son premier délire avec le chien.
Où les deux enfants pleurent en même temps.
Les deux enfants qui mettent à pleurer, les parents qui s'engueulent. Et c'est un petit peu douloureux, surtout qu'en plus, j'étais à Bibliothèque François Mitterrand à 21h50. Et je vous l'annonce, ils font des soirées dans la salle juste à côté. Mm-hmm. Donc voilà, la musique, la BO de Mirai. Ça a été.
J'ai appris que ça s'appelait Mirai.
Voilà. Donc toutes les scènes calmes, les enfants hurlaient pas, j'avais de l'art-tech qui tapait boulum, boulum, boulum. Donc j'ai eu des conditions un peu compliquées et malgré ça, j'ai quand même passé plutôt un bon moment.
C'est peut-être grâce à ça que tu as passé un bon moment.
C'est possible, ouais, peut-être. Mais non, moi j'ai trouvé que c'était pas mal et justement assez clair sur le fait que ce soit le gamin qui soit le personnage principal. Je trouve qu'on est tout le temps à son point de vue. Tu commences avec lui, tu vois la petite sœur arriver, tu le suis dans le truc. La relation des parents est c'est nul votre truc.
Ah, tu viens de leur dire en plus. Oui, Cédric.
Bon, bah, je rebondis sur ce que disait Gus du coup, mais effectivement, le film est toujours du point de vue de Kun, du petit garçon, et à tel point que en fait, tous les éléments fantastiques de l'intrigue, on pourrait presque se dire que c'est lui qui les imagine et qu'on est dans l'imagination du gamin, quoi.
Oui, Marie.
Justement, moi je trouve ça assez problématique que toutes les aventures que vit le héros dans ce film sont fantastiques, rêvées, imaginées. Il ne vit pas d'aventures concrètes. Donc je trouve ça totalement antidramaturgique. Et en plus de manière très très mécanique, puisque à chaque fois qu'il y a une crise de larmes, une colère de ce petit garçon, il y a automatiquement un voyage fantastique avec des personnages nouveaux. Et ça se finit en délire le plus complet, comme métaphysique totalement, dans un index familial qui est une sorte d'arbre généalogique magique à la Matrix qui n'a
on sait pas d'où il vient,
aucun sens. Qui, enfin, Largué.
Moi, ma théorie, avant que je te repasse la parole, Cédric, c'est que ça nous présente l'histoire d'un gamin schizophrène, en fait. Et qui pense dans ça assez bizarre. Mais la moindre contrariété, bim, je m'enfuis dans mon monde imaginaire où tout le monde m'aime. Mais je t'en prie, Cédric.
En fait, je suis pas d'accord quand tu dis qu'il y a pas de, il y a pas d'obstacle. C'est que c'est des enjeux qui sont à la hauteur du gamin de 4 ans. Donc ouais, c'est des tout petits enjeux pour nous adultes. Mais pour lui, c'est très important. C'est arriver à ranger les poupées sans que son père s'en aperçoive. C'est arriver à faire du vélo sans les petits trous. Et donc, c'est vrai que on a l'impression que
tout ça, ce que tu racontes là, ces petites scènes du quotidien compliquées pour lui à gérer, j'ai trouvé ça génial. Mais justement, c'est à chaque fois qu'il part dans son délire d'imagination. Enfin, quand t'as un mec qui arrive et qui dit c'est moi ton chien. Enfin,
je suis pas sûr, Max, wow. De l'imagination. Je l'ai plutôt vu comme un espèce de conte.
Ah non, mais attends. C'est que justement, là où je trouve que vous avez raison et tort en même temps, c'est que comme tu dis, l'enjeu pour moi n'est pas assez fort parce que justement, le côté où il range la poupée, l'enjeu quand même final de cette scène, le climax de cette scène, c'est faut récupérer un morceau de plastique qui est sur les fesses de son père. Déjà, pourquoi est-ce que vous y allez à 3 pour les récupérer? Et j'en viens, alors que les petits trous c'était très bien parce qu'on est dans le monde réel et je me suis reconnu parce que moi aussi j'ai appris à faire du vélo tout seul et je me suis pété la gueule tout le temps. Il le fait beaucoup plus tôt que moi. Mais c'est, est-ce que, et là je te passerai la parole, Gus, est-ce que ces imaginations sont réelles? Parce qu'un gamin de son âge ne peut pas ranger les poupées aussi bien. Ce n'est pas possible.
Pour moi, c'est pas réel. Hein, j'ai pas l'impression. Même l'histoire du grand-père, il y a quand même tout un truc où il pense qu'il est avec son père. Oh là là, mais putain!
Donc Cédric, je te pose la question à toi. Est-ce que ces hallucinations ont une présence physique ou non?
Ah, écoute, on s'en fiche un peu, je pense que
ah
c'est...
Non, ah non, on s'en fiche pas, on s'en fiche pas.
Non, y a un problème. Enfin, c'est antidramaturgique quand même de pas vivre des aventures dans ta vie concrète.
Mais il vit des aventures dans
sa vie concrète. C'est un peu comme si t'écrivais un film, à la fin, le héros se réveille, et il dit, c'est comme si t'écrivais un film, à la fin, le héros se réveille, en fait, tout ça n'était qu'un rêve. Enfin, c'est pareil.
Tu veux dire que c'est comme Sicilian Ghost Story?
Vanilla Sky.
Veuillez voir le c'est quoi le pitch numéro 12, je sais plus combien, mais oui, Cédric, continue ta pensée.
Non, mais écoute, il y a des enjeux, mais c'est des tout petits enjeux. Donc après, moi je trouve que c'est une des forces du film, c'est de choisir d'adopter des enjeux à hauteur d'enfant et que beaucoup de choses dans le film restent à hauteur du personnage principal.
Je suis d'accord, je trouve bien. Il y a un machin avec le grand-père.
Oh, c'est limite, hein. C'est limite.
Ça passe. Moi, on me filait les règles, on m'a dit pas le mot hanté.
Voilà.
Non, il y a un machin avec le grand-père où il pense pendant un moment que c'est son père. En fait, il arrive, au moment d'apprendre à faire du vélo avec son père, il se retrouve dans l'arbre, il trouve un mec qui a une moto et il pense pendant longtemps que c'est son père, il lui demande papa. Et puis d'un coup, le mec, quand il revient dans la vraie vie, il voit la photo de son grand-père sur le mur et c'est sa mère qui lui explique. Oui, c'est ton grand-père pendant la guerre, machin et tout. Et tu piges que ce qu'il a vu, c'est ce qui s'est vraiment passé. Ah, tu fais une drôle de tête. Mais non, mais si, je pense que ces résultats, pour moi, c'était pas du tout des rêves d'enfance. C'était vraiment un truc qui est assez japonais, finalement.
Non, mais le problème de ça, c'est très bien, il rêve de ça. Donc ça prouve que s'il a rêvé de son grand-père alors qu'il avait jamais vu sa photo, ça veut dire que c'est réel. Donc tout ce qu'il vit, donc son jardin, là, parce que le mec est un architecte, sa maison est quand même hyper mal foutue, excusez-moi. Il y a quand même le salon en haut.
Ce qui est assez réaliste, ça.
Un jardin. Et ensuite, t'as la chambre d'enfant.
Mais le principe du fantastique, c'est de jamais être sûr, de toujours être sur la ligne entre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et c'est d'être cette incertitude, en fait. Et le fantastique, c'est vraiment basé
sur ça. Mais l'incertitude...
J'ai pas vu le film.
Oui, t'as pas vu le film. Mais l'incertitude, là, n'apporte rien. Je veux dire, quand il y a une certitude, quand dans ce film, j'arriverai jamais à retrouver le nom, avec le labyrinthe de Pan, l'incertitude a un intérêt, quand même. Là, il n'y a aucun intérêt. Le fait que ce soit réel ou pas, qu'est-ce que ça change, quoi, Cédric? Réponds à ça. Répondez.
Ça change rien. C'est juste le film.
Là où t'as raison, que ce soit réel ou pas, on se fait quand même chier. Que ce soit vrai ou pas, on s'ennuie mortellement dans ce film.
Ah, moi, je suis pas d'accord, mais après, c'est ton ressenti. Hein,
Ah oui, c'est mon ressenti. Mais dramaturgiquement, comme tu dis, c'est des enjeux de gamin de 4 ans. Donc la vraie question, est-ce qu'on a envie de s'emmerder pendant 1h40 à regarder des enjeux de gamin de 4 ans? C'est une vraie question, Marie.
Eh bien, oui. Alors, du coup, je rebondis sur un ancien film du scénariste et réalisateur qui s'appelle Mamoru Hosoda. C'est Les enfants loups, Ame et Yuki, qui est sorti en 2012 et que j'avais trouvé vraiment très, très beau. Assez simple et lent, contemplatif, mais extrêmement précis et concentré. Et donc, l'histoire se tenait de bout en bout. Il y avait une magnifique trajectoire émotionnelle. Et comme tu disais, Cédric, dans Les enfants loups, il y avait vraiment un point de vue d'enjeu d'enfant. On était tout le temps auprès de ces enfants qui avaient des enjeux extrêmement précis et clairs pour leur âge. Et ça marchait. Et Et là, je trouve qu'effectivement, c'est plus dilué. Enfin, c'est pas vraiment les enjeux qui marchent pas, mais ce côté fantastique nous perd un peu, nous perd complètement, et même on sait plus vraiment de quoi ça parle. Voilà.
Je reconnais qu'il y a un côté chronique et presque film à sketch à travers les différents histoires.
C'est très cyclique en plus pour le coup. Ouais. C'est toujours le même schéma qui se répète. Il se passe un truc, il lui plaît pas, et puis une crise. Oh là là, j'avais fait le droit à un joker, je l'ai pas utilisé encore.
Allez, c'est celui-ci.
Donc il lui arrive des machins. On recommence. Il lui arrive un machin dans sa vie qui le met en colère. Il pique une crise, il va dans le jardin. Quand il passe près de l'arbre, il rencontre un personnage qui était en lien avec ce qui vient de lui arriver et il vit une histoire fantastique. On est dans ce truc cyclique qui est vraiment de l'ordre du. Mais non, mais c'est nul cette règle.
C'est dur, oui, Marie.
Non, écoutez.
Non plus rien.
Mais j'ai préféré aussi Ame Yuki pour aller dans ton sens, Marie.
Moi, je tiens à dire que je me suis beaucoup fait chier devant ce film.
Alors que tu l'as pas vu.
Non, je l'ai pas vu, mais je suis frustrée de pas dire du mal d'un film que t'as détesté, parce que je suis sûre que je l'aurais détesté aussi.
Bah, j'ai dit, en fait, c'est Suspiria version dessin animé.
Ah ouais, alors là ça s'est mal barré.
Non, c'est dur, ça.
Non, mais je veux dire, on est en janvier, c'est le premier podcast de janvier, et je crois qu'il va déjà finir dans mon flop 5 de l'année. Je pense. Parce que quand vous dites ça crie pendant la dernière demi-heure, je vous rappelle la dernière scène où il y a la mère qui est en train de beugler aux deux gosses devant la voiture, et il fait Anissa, j'arrive! Comme ça. Et il se gueule, et donc le gamin gueule, la fille répond en gueulant, puis le gamin regueule pour lui dire qu'il l'avait entendu gueuler, donc elle regueule pour lui dire qu'elle aussi a entendu gueuler, ça n'en finit pas.
C'est quand même un classique de l'animation japonaise.
Ah, je suis d'accord, mais c'est pour ça que j'ai dit, n'allez pas voir ce film, ça va beugler, c'est comme pourquoi je déteste mon voisin Totoro, ces deux gamines criardes qui passent leur temps à chialer. C'est ça l'animation japonaise, et c'est terrible. Et oui, je résume toute l'animation japonaise à ça.
Si t'as pas aimé mon voisin Totoro, effectivement, je comprends que tu n'aimes pas non plus.
Ouais, c'est dur d'en rebondir après.
Non, mais en fait, l'animation japonaise, dès qu'ils mettent des gamins, c'est insupportable. Non, Princesse Mononoke est un de mes films préférés de tous les temps, parce que c'est l'animation japonaise, mais ils ont quoi? Ils ont quel âge? Ils ont 16-17 ans. Ils sont mieux. Les Japonais ne savent pas gérer de manière agréable, j'ai envie de dire, les enfants. Faut qu'ils arrêtent. Mais faites des robots géants!
À propos du film, Marie. C'est que l'animation est particulièrement belle et réussie, et j'ai trouvé que voilà, c'était très délicat, c'est des dessins magnifiques. Alors, visuellement,
c'est
rien
très
à redire.
Maîtrisé, oui. Et très très économe dans
l'animation. Justement dans les enfants, parce que peut-être qu'ils hurlent et que c'est horrible, peut-être. Mais en vérité, ils sont à l'image, ils sont absolument magnifiques. Quand tu le vois, le petit garçon qui a 4 ans descendre les escaliers marche par marche, c'est compliqué et tout, mais enfin tout est beau quand même dans le mouvement, tout est beau.
Alors tu m'as piqué le seul point fort que j'ai au film. Les animations sont magnifiques. Mais magnifiques. Pourtant, les gamins m'insupportaient leur voix, mais les voir descendre un petit escalier, les voir enlever leurs chaussures, c'est vraiment, c'est ultra mignon.
Et c'est super beau.
Et je pensais que le film allait être sauvé par ça. Et en fait, non. En fait,
il faut être sauvé par ça.
Ah non, mais j'ai dit, regardez le film sans le son. Et vraiment, l'animation est vraiment top. Et après, tiens, à la fin, je vous demanderai lequel animation vous avez préféré, le français, le japonais. Mais honnêtement, le japonais était vraiment haut.
Pour l'anecdote, Mamoru Hosoda avait amené ses enfants au studio pour que les animateurs puissent justement les observer, regarder comment ils marchaient, comment leur centre de gravité n'est pas placé comme sur là au même endroit qu'un adulte. Voilà.
Oui, bah écoute, ça m'étonne pas.
Et effectivement, on se dit qu'obtenir ce genre de ce genre d'acting sur des enfants, sur des vrais enfants, ce serait impossible d'avoir une direction d'acteur avec des enfants de 4 ans. Et c'est pour ça que le choix de l'animation est justifié, et c'est pour ça aussi qu'il y a toute cette délicatesse qu'on peut peut-être pas avoir dans un autre film.
C'est très juste.
C'est s'il y a un chien homme, c'est peut-être pour ça aussi que c'est justifié, non?
Aussi, oui. D'ailleurs, le chien dit oui, je suis ton prince et tout, mets-toi genoux devant moi, puis dès qu'il jette une balle, il court après. Mais ça fait très chien.
Il y a un chien homme très réussi dans La Folle Histoire de l'espace, hein, tu sais.
Ah non, mais c'est un chien qui se tient à deux pattes ou qui marche
non, c'est un homme qui
ah, c'est un homme.
C'est un homme,
c'est un homme qui dit je suis un chien.
Ouais. D'accord.
Il a juste une queue, en fait, voilà. De chien.
Oui, deux en tout.
Oui, qui se détache. Ah oui, excusez-moi là. Ah oui, non, parce que là, faut en parler de cette scène, j'avais oublié. Le gamin détache la queue du chien, il se la colle à un endroit. Voilà, pour pas le dire. Et là, il y a des oreilles de chien qui poussent et il se met à courir et à japper autour de ses parents comme ça. Mais cette scène est sauvée parce qu'au tout début, il fait le chien. Donc on se dit, ah, il est habitué à faire le chien. Donc en fait, ses parents doivent voir le gamin sans les oreilles que, sinon c'est vraiment des mauvais parents. On dit, c'est bizarre, notre gosse a quand même une queue de chien et tout. Donc ça prouverait, cette scène-là prouverait qu'en fait, ça n'existe que dans la tête du gamin. Mm-hmm. Ce qui est incohérent avec la scène de la poupée où le gamin ne peut pas soulever et ranger ses poupées à 4 ans, c'est impossible.
Pourquoi tu cherches à mettre du réalisme dans quelque chose?
Je cherche pas à mettre du réalisme, que... je cherche à trouver de la logique.
Oui, c'est ça.
Je suis pour les films fantastiques, mais ça doit être fantastique de bout en bout. Soit c'est fantastique, soit c'est logique, ça ne peut pas être les deux. Voilà, c'est mon avis.
Je suis pas sûr que t'aies besoin de définir nécessairement, surtout dans un film comme ça, la limite entre est-ce que c'est fantastique ou est-ce que c'est de la mémoire. Je pense que tu parlais justement du Labyrinthe de Pan avant, je pense que c'est un peu la même chose. T'as pas besoin de dire en fait à la fin est-ce que c'était vrai ou pas. Truc.
Bah. Et bah, moi j'en ai besoin. Et tour final sur ce film, Cédric ?
Bah, moi je le recommande. Si vous aimez l'animation japonaise, effectivement, ou si vous avez envie de voir un film d'animation japonais.
Mm-hmm. Ouais. Marie ?
Alors, moi je ne le recommande pas, et pourtant j'aime l'animation japonaise.
Très bien, Gus.
Bah, je le recommande aussi. Juste une question pour le coup sur le public. Je pensais que c'était un film pour enfants pendant une bonne partie, et ces scènes de fin notamment, pour le coup, je sais pas à quel âge tu peux ramener un gamin devant ça. Il y a qu'un passage avec le TGV qui est assez flippant, et je pense que ouais, je sais pas à quel âge tu mets un gamin devant ça.
Alors, clairement, pour moi, c'est un film pour des jeunes parents. Pour savoir comment pensent leurs gosses et faites pas de deuxième enfant, sinon votre fils va devenir schizophrène. Quoi. Pour moi, c'est ça le message du film.
C'est un moyen de contraception. En fait.
Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé, excusez-moi, je vais revenir à de la méchante de l'histoire qui est la princesse Baga, je sais pas, qui est le démon qui s'imagine, parce qu'il imagine extrêmement de monde onirique et tout, mais il y a quand même une méchante qui ne sert à rien dans le film. Une tonto,
c'est pas la méchante du film.
Ah bah, c'est la seule antagoniste qui existe.
C'est juste un truc qui lui fait peur, oui. Ah, oh, mais non! C'est un machin qui lui fait peur.
C'est le croque-mitaine japonais, c'est une méchante qui est dans un de ses livres d'histoire.
Oui, enfin après, des fois, elle prend la tête de sa mère. Enfin,
quand, bon, il a peur, quand il a peur, il y a ce personnage qui apparaît, mais.
Et donc, moi, évidemment, ce film, nul. Je pense un des pires films de l'année, sûrement. Mais bon, l'année nous réserve sans doute plein de dobris. Mais j'aime ça, si vous voulez pas voir ce film, bah, prenez le train. Il y a toujours des gosses, et si tu peux prendre un train bien long, genre vers Briançon, t'es 4-5 heures, et puis vous aurez la même ambiance sonore et la même épaisseur de scénario. Voilà, c'est-à-dire aucune. Donc je vous conseille ça, ça vous coûtera peut-être un peu plus cher, mais au moins vous irez quelque part. On termine avec Astérix, le secret de la potion magique, écrit par qui ? Alexandre Astier, quand même. Et c'est Fiona qui nous le pitch.
Et il y a un deuxième scénariste. Hein.
Ah, sur Wikipédia, il n'y avait que lui.
Louis Clichy, il avait écrit sur le. Alexandre, réalisé et écrit par Alexandre Astier et Louis Clichy, je crois. Voilà. Louis de Clichy. Voilà,
eh bien, pardon à Louis de Clichy que j'ai oublié.
Alors que toute la Gaule est occupée, toute, non, un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et ces irréductibles gaulois ont un druide, Panoramix, et ce druide, après être tombé d'un arbre, réalise qu'il n'est plus tout jeune, le gaillard, et il ne sera peut-être pas toujours dans les parages. Il décide donc de trouver un apprenti druide pour lui transmettre la recette secrète de sa fameuse potion magique. Et là, on arrive dans le titre.
Ouais.
Mais sur son chemin va se trouver Sulfurix, un druide apparemment banni pour, je pense, utilisation de magie noire. Sulfurix va tenter de se procurer la recette de la potion de Panoramix en manipulant un apprenti druide nommé Téléphérix et en utilisant l'armée romaine de Jules César. Enfin, je crois que c'est ça son plan, vous m'éclairerez. Mais heureusement, tout va bien se passer pour nos irréductibles Gaulois grâce à un sort beau et utile de Panoramix qui transforme les Romains en Transformers.
Très bien. Marie.
Oui, alors moi je voudrais dire déjà que le titre est mensonger. Donc c'est Astérix et le secret de la potion magique. Alors, bon déjà, le secret de la potion magique, oui, mais enfin il n'est pas vraiment révélé à la fin, ça reste quand même un secret. Et surtout Astérix. Mais où est Astérix dans ce scénario ? Où est Astérix ? Ce ne sont pas du tout les aventures d'Astérix ni même d'Obélix, ce sont les aventures de Panoramix.
En fait, c'est Panoramix et la transmission de la recette secrète de la potion
magique.
Bien
sûr, c'est lui le véritable héros de ce film, puisque c'est lui qui vit le plus gros conflit. C'est lui qui d'ailleurs, c'est le seul qui a un objectif et qui drive l'aventure.
Ah non, le méchant aussi a un objectif. Pas clair, mais il y a un objectif.
Oui, mais c'est le film, c'est Panoramix. C'est d'ailleurs lui qui a la trajectoire émotionnelle et c'est lui qui porte la résolution, comme tu l'as dit, Fiona. Tu as pitché entièrement ce film sans Astérix ni Obélix. Et je trouve que c'est tout à fait juste.
Bah, c'est un des problèmes du film, c'est qu'on enlève Astérix de cette histoire. Ça se passerait globalement...
D'ailleurs,
exactement pareil.
Il disparaît pendant bien 15 minutes pendant le film et oui, ça ne change absolument rien.
Oui, d'ailleurs, parce que dans chaque Astérix et Obélix, à un moment, ils doivent s'engueuler et l'engueulade est hyper superficielle. Ils s'engueulent pour je sais plus quoi, juste au moment... Je crois qu'il a envie de rentrer. Astérix fait non, mais de toute façon, on ne trouvera pas le remplaçant, bah non, nous. Ils s'engueulent, ils se barrent. Pourquoi c'est superficiel, ça n'apporte rien. Enfin, ça, c'est le gros défaut du film, c'est Astérix lui-même. Gus.
Bah, je suis assez d'accord. Hein. C'est Panoramix, c'est la potion magique. Mais Surtout, j'y suis allé en ayant un peu peur, parce que Astérix, c'est quoi? C'est 1960, le premier. Mm-hmm. J'avais un peu peur que ça sente la naphtaline. Et j'étais à la fois rassuré de voir qu'ils avaient réussi à le moderniser, et puis à la fois un peu déçu, parce qu'ils le modernisent, et ça reste quand même tout à fait la même chose, en ayant juste switché sur Panoramix. Mais c'est les mêmes blagues, c'est le même humour, c'est le même fonctionnement. Tu revois un truc que t'as vu quand même depuis...
Fiona.
Oui, moi, c'est pas tant le côté vieillot qui m'a dérangé, c'est plus parce que pourquoi pas, les gens sont attachés à Astérix, ils veulent voir une aventure d'Astérix, ça me dérange pas. Mais c'est plutôt que là, moi, j'ai eu un problème aussi avec, avec le méchant, Sulfurix, donc je ne comprends pas vraiment le plan.
Je
comprends pas bien son plan. Parce que, voilà, son plan d'une part, parce que je comprends pas pourquoi il a vraiment besoin de l'armée romaine alors qu'il veut la décimer. En vrai, il pourrait complètement faire sans.
Je crois pas qu'il veuille décimer. En fait, son objectif pas très clair. C'est qu'il veut la potion.
Justement, donc son plan n'est pas clair. Mais surtout, c'est ce que j'allais dire, son objectif n'est pas clair du tout parce que j'ai cru comprendre qu'il voulait se venger de Panoramix. Ça, déjà, je ne comprends pas trop pourquoi, puisque il nous raconte une backstory où ils ont tous les deux passé un espèce de concours de druides et où Sulfurix a gagné. Donc, il n'a pas à en vouloir à Panoramix, il a gagné. Mais qu'après, dans leur vie professionnelle, Panoramix l'a dépassé, enfin, a été un meilleur druide. Et que du coup, que Sulfurix lui a stagné, mais je comprends pas pourquoi Sulfurix en veut à Panoramix.
Parce que c'était normalement l'enfant prodige, c'était lui qui était censé devenir le meilleur druide de France, de Gaulle. Et puis parce qu'il a fini premier du concours, donc il s'est dit dans sa tête c'est bon, je suis le meilleur. Et puis Panoramix est devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus célèbre que lui, alors qu'il a fini que deuxième. Il n'a pas le droit, il a fini deuxième.
C'est un peu flou. Et en plus, pour un film familial pour enfants, c'est pas très facile à comprendre comme motivation. Après, on se dit qu'il veut avoir la recette de la potion magique pendant une seconde. Moi, je pensais que c'était comme il l'annonçait à César pour la lui vendre. D'ailleurs, à un moment, il le dit, c'est le plus gros vendeur, enfin, c'est le meilleur acheteur, pardon, César.
En échange, il demande, il dit, je ne veux pas d'argent, je veux la forêt des druides où j'ai été banni, et tout ça, il la brûle par hasard, il dit, je me demandais ce que j'allais en faire, tant mieux, je l'ai brûlé.
Exactement, donc on ne sait pas, il a clairement, je pense, une revanche sur les druides en règle générale, qui l'ont banni, d'ailleurs pour une utilisation de magie noire qu'on ne voit pas vraiment, parce qu'on ne sait pas...
Jamais dans le film, il utilise de magie noire.
Oui, en tout cas, il l'évoque une seconde, mais on ne sait pas trop, et enfin, donc effectivement, il dit quand même que avec la recette de la potion magique, Panoramix aurait dû en donner à toute la Gaule pour se défendre des Romains. Donc il a
se défendre. Moi, de ce que j'ai compris, lui, son but, c'est de dire, il me faut le secret de la potion magique pour pouvoir enfiler à toute la Gaule pour aller nous-mêmes envahir Rome. Moi, c'est ça que j'avais compris.
En tout cas, il a un objectif un peu à la Killmonger dans...
Non, mais il y a trop d'objectifs.
Black Panther, pourquoi garder ça pour une petite bande et alors que t'as un pouvoir de dingue, il faut le partager. Un peu un méchant communiste, entre guillemets. Mais du coup, on sait pas trop pourquoi il fait ce qu'il fait.
Oui, et son plan est alambiqué. Effectivement, il veut récupérer la potion magique. Alors, sa première action, c'est de postuler pour être le successeur de Panoramix. Bon, évidemment, il se fait recaler direct. Alors, après, il se dit, je vais trouver un autre moyen. Donc, il va chercher le meilleur des jeunes druides pour lui retourner le cerveau, pour que le type se fasse prendre comme apprenti par Panoramix. Et après,
en plus, c'était accidentel qu'il ait le nom d'un des meilleurs druides. Il voulait le brûler et après il est resté un bout dans sa main.
Oui, tout à fait, c'est vrai.
Je pense que c'est censé être volontaire. Je crois qu'il a pris le papier exprès, qu'il fait semblant de le brûler.
Je croyais que c'était un peu plus tiens donc. Une surprise.
En même temps, question, si le papier était brûlé, comment ils ont fait pour aller le voir? Qu'on sait que c'est celui qu'ils aillent voir en dernier et comment ils vont voir.
Moi je me suis demandé aussi, mais en fait non, il fait une annonce, tu sais, un peu.
Il y a le devin. C'est un peu Capullo tracté, mais il arrive à t'expliquer pourquoi est-ce que Panoramix revient voir le mec qui vous dit pas.
Donc en fait, je trouve que rien n'est fluide. Quand on essaye de tisser le fil, enfin de détricoter un peu cette intrigue pour mieux la comprendre, on se rend compte que le plan n'est pas du tout logique, simple. Il est complètement alambiqué, et ce qui fait que le film entier finalement l'est un peu. Il pourrait être plus simple, plus efficace, et il se perd un peu dans toutes ces sous-intrigues.
Le film est très bancal, parce qu'encore pour reparler du plan du méchant, ok, d'accord, ton poulain va être... Attends, mais je me souvenais plus. Est-ce que sa technique pour faire la flamme et manipuler les gens, Est-ce qu'il l'a essayé sur Téléférix? Est-ce que ça marche? Parce que si c'est ça son plan...
Non, il l'utilise pas.
Il l'utilise pas parce que...
Oui, ce méchant a un pouvoir, c'est qu'il peut manipuler certaines personnes.
Oui, les gens faibles d'esprit. Mais du coup...
Il
ne
les manipule pas, il les arrête, non? Il les bloque.
Non, il peut leur donner un ordre, je crois.
Il ne manipule pas du tout, il les assomme juste.
Ça suffit un peu. Hein.
Ça suffit.
Ce qui sert absolument une fois dans le film, en plus. Ça sert juste à assommer Obélix à un moment donné.
Non, celui-ci, à un moment, il arrive à... Enfin, c'est grâce à ça qu'il a gagné le concours. Et puis, en plus, il fait ça à un druide qui a l'air un peu bébête. Mais bref. Du coup, c'est que... Quelle garantie il a? Supposons que Téléférix apprenne le vrai pouvoir de la potion magique, ce qu'il n'apprend pas. Quelles sont ses garanties qu'il va lui donner? Parce qu'il prend le poulain, il dit, je vais t'apprendre. Et ça, c'était plutôt pas mal. Il dit, moi, je connais Panoramix et je vais te dire ce qu'il veut. Lui, c'est qu'il va prendre un druide qui fait quelque chose d'inutile, parce que c'est ça qu'il avait fait au concours, et il aime la poésie. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais une fois qu'il a ça, quelle garantie il a que Téléférix va lui donner le secret de la potion magique? Il va peut-être être très fidèle à Panoramix, il n'en sait rien. Donc c'est pour dire à quel point son plan est bancal.
Oui, ça tient pas debout, et au-delà donc du méchant et de tous les problèmes qu'on a évoqués jusque-là, j'ai trouvé, et ça me fait un peu mal au cœur et bizarre de dire ça de la part venant, sachant que le film a été écrit par Alexandre Astier, j'ai trouvé que le rythme était patiné vraiment, surtout sur la première partie. Je crois que ça, c'était quand même
ça poussif, serait moins d'accord. Autant je trouve qu'en termes de narration c'est un peu le bordel, autant en termes de rythme, dans l'animation, dans les gags et tout, j'ai pas été choqué par un manque de punch.
Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi, Fiona. Je trouve que l'histoire est objectivement pas très bien écrite, mais moi j'ai vu aucun problème de rythme. C'est-à-dire, je me suis pas ennuyé à aucun moment. Les gags sont là, sont de façon presque symétrique, ficelée. Elles sont là au bon moment. Les blagues sont drôles, on oublie. Mais à un moment, ils font une espèce d'ellipse où tu vois une carte de la France et puis chaque druide fait une connerie.
C'est assez drôle, mais je sais pas, moi j'ai senti un peu de lenteur au début, je sais pas.
Cédric, une question, tu n'as pas vu le film?
Oui, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu que le film était assez court, je crois que ça fait 1h25, ce qui est plutôt court par les temps qui courent. Mm-hmm. Donc à mon avis, je sais pas si ça se sent dans le scénario que justement le film a été dégraissé et qu'on arrive à 1h25 visiblement Fiona pense que non.
Le problème c'est que s'il avait été plus long, peut-être que le méchant aurait encore plus de justification pour son plan et on sait pas ce que ça aurait donné.
Peut-être que le rythme aussi vient, enfin cette impression là vient peut-être du fait qu'il cherche pendant très 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 longtemps donc l'apprenti druide, et du coup j'avais l'impression que l'histoire était très répétitive, et même il y a le comique de répétition, je crois que c'est inhérent en plus à Astérix, il me semble, je ne suis pas une professionnelle, une experte d'Astérix, mais là j'ai trouvé que le gag du poissonnier et du forgeron, que tous les gags, tous en fait, étaient assez répétés plusieurs fois, tous. S'il y en a un, ça va, et j'ai l'impression d'avoir vu un petit effet de répétition.
Voilà. Très bien, Marie.
Mais d'ailleurs, tu mets le doigt sur quelque chose que je trouve vraiment dommage dans ce film-là, c'est que donc, Panoramix décide de partir à la recherche de l'apprenti idéal. Évidemment, il est accompagné par Astérix et Obélix, parce que ce sont des gens valeureux qui vont le protéger dans sa quête, enfin, ce sont les meilleurs guerriers du village. Voilà, il leur dit d'ailleurs, tel quel, vous êtes les meilleurs guerriers du village, merci de m'accompagner. Et en fait, tout le village se joint à eux. Il n'y a plus de particularité, de spécificité à Astérix Obélix, puisqu'ils sont accompagnés par tout le village.
Ça, c'était pas une volonté de Panoramix.
Oui.
Non, mais finalement, Astérix Obélix sont complètement noyés dans la masse. Je trouve qu'ils ne sortent plus du lot du tout. Ce qu'ils font, les autres le font également. Et leur relation n'est pas du tout exploitée non plus.
À part celle du poissonnier qui essaie de
faire
sa propre
potion. Non, mais la relation entre Astérix et Obélix est plaquée. En fait, on part du principe qu'on les connaît. C'est un peu dommage, voilà. On part du principe qu'on les connaît, et c'est vrai, on les connaît. Mais du coup, on ne va pas chercher plus loin.
Mais on a l'impression d'avoir vu plus de scènes avec le poissonnier et le forgeron qu'avec Astérix et Obélix.
Tout à fait. Oui.
Ils n'évolueront jamais, Astérix et Obélix.
C'est pas une question d'évoluer, c'est une question d'exploiter les personnages principaux de ton film. Merde.
Oui, Gus.
Non, j'ai pas grand chose à dire de plus, je suis assez d'accord avec tout ça. Hein.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la fille?
Non, c'est ça, on va en parler. Mais juste avant, pour parler de la fille, parce que j'avais une idée moi pour le film, parce qu'en fait on découvre en fait que l'ingrédient secret de la potion magique est contenu dans la serpe de Panoramix, et donc en fait c'est ça, c'est une goutte supplémentaire. Sauf qu'on n'explique pas ce que c'est que cette goutte. Donc du coup, le secret. Et moi j'ai cru que ça allait être mind blown. Attends, je sais plus comment on dit.
mind blowing,
c'est que en fait le secret de la potion magique c'était une goutte déjà de potion magique et qu'en fait le gros récipient qu'ils font n'est qu'un additif et qu'en fait faut mettre une goutte de potion magique qui crée une énorme potion magique et à la fin il en garde une goutte et il la garde dans sa serpe. Et donc en fait la vraie question c'était oui d'accord mais comment t'as fabriqué la première goutte? Et je pensais qu'il allait dire ah bah ça c'est un autre secret et je pensais que ça allait finir comme ça. Mais non en fait le secret bah ouais c'est ouais j'ai un ingrédient secret que je connais pas.
Oui, ça reste
toujours un secret. Donc ça même ça le titre je trouve a été mal géré. Maintenant on va parler quand même mais je crois que ça tient à cœur du personnage féminin de l'histoire, oui, alors, de la petite fille dont j'ai oublié le nom.
Pectine.
Pectine. Marie.
Oui, alors je trouve effectivement que un des problèmes de ce film, à mon sens, un film censé être actuel, c'est que je pense que 95% des personnages principaux et il y en a, enfin des personnages tout court, et il y en a beaucoup, sont des hommes. Il y a donc un personnage féminin qui est une petite fille qui s'appelle Pectine et qui accompagne elle aussi, comme la moitié du village, Panoramix dans sa quête et qui visiblement est une petite inventrice. Elle est très très ingénieuse et on l'oublie pendant à peu près bien 60% du film, hein. Et puis elle ressurgit à la fin, et c'est grâce à elle que tout est sauvé. Voilà, elle a plus de trajectoire qu'Astérix et Obélix.
Oui. Justement, sur Bectine, on sent que dès le début, tu sens que ça va être elle l'apprentie. Hein. Enfin, là, oui. Pour le coup, il n'y a pas de mystère, mais effectivement, tu la traites pas, tu vois pas. Oui, dans un mix, donner des conseils. Enfin, ça vient d'un coup à lui. T'as vu comment il a fait l'apprenti? Bah, fait pareil. C'est quand même censé être hyper dur. Et lui, il est censé être hyper fort. Et en plus, elle n'est pas censée être apprentie druide. Elle est apprentie. Enfin, elle est effectivement petite inventrice. C'est pas la même chose.
Oui, elle est plus ingénieure que.
Elle est plus ingénieure que potion maker, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Et bon, il y a les femmes du film sont restées au village pour protéger le village. Au final, quand tous les hommes sont partis. Bon, le personnage qui est toujours marrant et qui d'ailleurs est doublé par Florence Foresti, c'est la femme
du chef.
Du Vanille,
ouais. Ouais, voilà, c'est Florence Foresti qui fait la voix.
Ouais, et elle, bon, voilà, je trouve qu'elle marche bien. Après, j'aime bien Florence Foresti.
Oui, parce que quand tu dis qu'il n'y a aucune femme, c'est les femmes qui tiennent le village, justement.
Oui, enfin, c'est complètement secondaire, c'est totalement périphérique.
Et elles tiennent à la potion magique.
Voilà, enfin, moi, j'ai trouvé quand même que c'est un film. Je trouve ça dommage aujourd'hui d'aller voir un film où il n'y a quasiment pas de femmes à l'écran, surtout. Enfin, on pouvait totalement justifier par mille manières de rajouter des personnages.
Oui, non, il y en a quand même des femmes. C'est juste que c'est dans cet univers-là.
C'est ça.
En plus,
c'est un univers extrêmement masculin et en plus ils ont créé, alors je pense qu'ils ont créé ce personnage parce que c'était l'air de temps, il est mal exploité mais ils ont quand même fait un début d'effort
super. C'est un début d'effort, ça veut pas dire que c'est réussi. Et alors je tiens à dire, il y a même une blague qui est sexiste dans ce film, c'est que la forêt des druides est interdite aux non-druides et il y a un panneau qui dit et aux femmes évidemment, donc super, donc c'est une bonne blague, je trouve ça d'accord. Sauf que il n'y a jamais de rédemption dans cette blague, il n'y a jamais, parce que finalement il y a des non-druides et une femme qui entrent dans cette forêt, il n'y a aucune conséquence. Et la fin de ce film, ce n'est pas de dire finalement, on devrait peut-être ouvrir les druides aux femmes parce qu'elles sont quand même aussi bonnes que les garçons.
Attends, mais c'était il y a 2000 ans, tu t'as
fait. Non, mais c'est vrai que là, vu comment le film a été développé, et je pense que c'était une intention aussi de dire que ça, leur rédemption, c'est de dire que c'est la petite fille qui a fait la potion magique et la fin. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa une petite dernière scène où Panoramix arrive avec la petite fille, cette fois-ci plus du tout déguisée en garçon, en disant c'est mon apprenti, c'est elle la future druide, et ça montre que il a une
il y a pas d'évolution, voilà.
Et voilà, et ça aurait été sympa de voir cette dernière scène, je trouve, avec que j'invente, hein, complètement dans la forêt avec tous les druides, oui, ou dans un autre endroit où et aux femmes a été effectivement barré, et t'as la petite qui n'a plus besoin de se cacher parce que c'est quand même une espèce de petite Mulan cette petite fille, et ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Et au-delà de ça, j'ai une question.
Oui.
Moi donc il n'y avait pas grand monde dans ma salle quand je l'ai vu, parce que je l'ai vu tardivement après sa sortie. Il y a quelques enfants et ça a rigolé pas des masses. Et les enfants, j'ai un peu écouté à la sortie ce qu'ils en pensaient. Et c'était vite en mode ils sont sortis. Les parents disaient t'as bien aimé. Ils font oui, hey, on sort par où? Enfin, et en général, enfin, ils parlaient de complètement d'autres choses. Et en général, les enfants, quand ils sortent d'un film, ils sont assez exaltés. Ils disent ah, c'était marrant quand il y a eu ça. Et là, malheureusement, je pense que ça a. Enfin, dans ma salle, en tout cas, ça n'a pas trop pris sur les enfants. Donc c'est pour ça que je voulais demander si vous aviez une salle plus remplie d'enfants.
Oui, bah, moi, j'avais pas beaucoup d'enfants dedans, mais il était tard.
T'aimes bien aller voir des films à 21h50.
Ouais, bah, oui, mais en même temps, c'était super creepy. J'étais un des seuls sans enfants dans la salle avec 2-3 enfants d'une salle noire, c'était bizarre. Mais non, ça a un petit peu ri. Et surtout, je crois qu'en termes de box-office, ils font un beau score quand même.
Oui. Mm. Bah écoute, non, moi ça s'est marré. C'était pas hilar, les gens n'étaient pas MDR, mais ça va, ça rigolait quand il fallait. Quoi. Oui, toi, Marie ?
Bien, moi j'avais été voir le premier Astérix d'Asti.
Le domaine des dieux ?
Oui.
J'ai préféré, moi.
Et ben, c'était... Oui, je l'avais beaucoup plus aimé. Et c'était, je sais plus, c'était un samedi, juste après la sortie. Enfin, c'était une salle blindée d'enfants. Et je me rappelle que les enfants riaient tout le temps, jamais au même moment que les adultes. C'était vraiment parfait. C'était un film à double lecture. Et là, j'ai beaucoup moins senti ça, effectivement. J'ai trouvé que dans le film, le précédent film, il y avait des blagues vraiment potage, premier degré, notamment toutes les blagues avec les sangliers. Les enfants étaient morts de rire, ils n'en pouvaient plus, ils riaient encore pendant 3 minutes ensuite. Et des vraies blagues de dialogue qui, elles, parlaient beaucoup plus aux parents. Et là, c'était un petit peu plus, j'ai trouvé, un film pour les plus grands.
Alors avant qu'on arrête, on va juste parler de la bataille finale, du climax du film, c'est-à-dire entre le géant, alors je crois que c'est Sulfurix hein, qui est géant, et le Transformers. Alors honnêtement, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne idée parce que justement, ce que tu disais Gus, d'ailleurs je ne sais plus quel film, ils n'ont pas réussi à se renouveler, bah c'était celui-là. Oui. Bah, je trouve que justement là ils ont réussi à se renouveler, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à récupérer des pouvoirs de magie, mais ils ont transformé ça en quelque chose de très moderne et de très japonais pour le coup, c'est-à-dire des combats de géants de Power Rangers. Le problème de Sun, c'est pourquoi est-ce qu'ils lui ont fait une queue de taureau ? Ça je comprends pas pourquoi. Pourquoi ils n'ont pas fait un Romain avec des pieds, Fiona ?
Alors ça, je ne sais pas pourquoi ils ont pas fait...
Pourquoi ils ont fait un centaure
et pas un romain. Je trouve ça vraiment bien qu'on réutilise le sort qui a, du concours de Panoramix qui lui a valu du coup la deuxième place et qui disent « Ah, bah, vous voyez que c'était joli et finalement, ça peut être utile. » Ça, je trouvais que c'était un bon payoff. En revanche, à un moment, quand le village brûle complètement, tu as tous les druides qui sont réunis et qui se disputent sur comment la marche à suivre. Mais il y en a un qui dit oui, je voulais faire la potion de rapidité, et un autre qui dit je veux faire la potion de géant. Et en fait, ces deux potions, c'est les deux sorts entre guillemets dont se sert le village juste après, parce que avec la potion magique, ils vont plus vite pour éteindre le feu. Et après, avec le sort de Panoramix pour faire le centaure romain là, c'est un géant. Donc pourquoi on n'a pas utilisé les deux sorts de ces deux druides qui marchaient très bien et qui réglaient le problème, quoi.
Et on aurait pu, oui.
Moi j'ai surtout trouvé que cette fin à la Transformers se sortait complètement des codes des Astérix et Obélix. En fait, j'ai trouvé que c'était extrêmement magique, beaucoup trop magique par rapport à tous les souvenirs que j'avais des albums qui étaient quand même, malgré tout, assez concrets. C'est dit concret. Et aussi, je trouve que cela prouve bien que Astérix et Obélix sont en dehors de la résolution, puisqu'elle est totalement apportée par Panoramix, qui utilise les Romains pour battre le méchant. Astérix et Obélix, ils peuvent être totalement absents de cette scène-là. Ça se finira bien quand même. Et je trouve quand même c'est assez problématique.
Il y a Obélix qui rentre dans le centaure et qui...
Oui, pourquoi ? Parce que
Romains.
Les autres ne vont pas assez vite.
Oui, non, mais ils auraient réussi quand même. Mais justement, là où je ne suis pas d'accord avec vous, justement, je trouve que ça casse pas les codes, ça sort dans les virages, on va dire. Ça fait un petit peu de hors-piste, mais ça va. On est sur la même montagne, pour faire un peu de métaphore montagnière. Mais je trouve que justement, certains défauts que je peux retrouver à Astérix, c'est au bout du compte, faut vite qu'on atteigne la potion magique et on va tout résoudre. Là, justement, non. On croit qu'ils ont résolu ça, mais il y a un méchant encore plus fort qui, la potion magique ne suffit pas, et donc ils utilisent encore une autre astuce. Et c'est plutôt bien trouvé, même si, pour en revenir sur Pectine, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ingénieur, pour le moment j'ai cru que ça va être elle, vu que c'est une ingénieure, qu'elle allait construire une machine ou quelque chose comme ça avec la potion magique pour la construire super vite, et que c'est comme ça qu'ils allaient battre le gros Romain Gus.
Non, c'est effectivement sur la fin, je trouve que pour le coup c'est pas mal qu'ils aient réussi à sortir un peu des codes d'Astérix, où c'est ça, c'est tu cours pour prendre la potion magique, tu pètes la gueule au Romain et c'est terminé. Et là, le fait qu'ils aient un peu sorti du machin, putain, il est pas assez loin celui-ci. Il était short. Le fait qu'il soit sorti du machin, c'était pas mal. Je trouve que ça renouvelait un peu le truc.
Mais merde! C'était bien tenté!
Je vous jure, un jour j'y arrive.
Ouais. Écoute, on va s'arrêter là parce qu'on est presque déjà à une heure d'émission. Tour final sur ce film, Marie!
Je ne sais pas tellement quoi penser. J'ai passé un moment agréable, mais je trouve que c'est globalement assez décevant.
Ok, Gus.
Je pense qu'ils auraient pu utiliser 6 mois d'écriture en plus, quand même.
Ok, Fiona.
C'était bien réalisé. Moi, j'ai beaucoup aimé l'animation aussi, quand même. Je la trouvais vraiment très belle et c'était bien réalisé. Effectivement, l'écriture pêche. Oui, j'étais déçue, peut-être encore plus parce que j'en attendais un plus d'Alexandre Astier. C'est quand même bien dialogué dans l'ensemble et il y a quelques bons gags, mais rien de mémorable, et j'ai préféré le domaine des dieux. Voilà.
Écoute, moi, j'ai pas passé un mauvais moment. Je peux passer un très bon moment. Pour moi, c'est, ce film est moyen. Et c'est vrai que je m'attendais un peu mieux de la part d'Alexandre Astier, qui a déjà prouvé qu'il savait très très bien écrire. Et, mais la, j'ai bien aimé la fin, où justement, quand on en parlait, il arrive à aller un peu plus loin que les codes d'Astérix. Mais il y avait des gros problèmes de méchants et des gros problèmes de personnages qui auraient pu être mieux gérés. Comme tu dis, 6 mois de plus, ça aurait pu faire de bien. Alors, je vais vous demander quelle animation vous avez préférée, mais je crois que je suis le seul à avoir vu les trois films. Donc, je vais décider. Et je décerne le prix à Mirai, parce que, quand même, le gamin qu'on a ses chaussures, c'est trop mignon.
Ouais, c'est quand même trois styles très différents, et je pense très, très bien réalisés tous. Hein.
Mais c'est bien que je décerne un prix à Mirai, ce film qui m'a gonflé au plus haut point, que je reverrai jamais. Alors que Spider-Man, je pense que je le reverrai avec plaisir. Si Spider-Man 2, j'irai le voir, Mirai 2, j'irai pas le voir. Je peux te le dire. C'est un troisième gosse qui arrive derrière. Mirai
et ma grande sœur.
Ouais, voilà. Mais non, mais tu la vois, la sœur, elle a grandi. Enfin, bon, bref. Les recommandations et des recommandations, Cédric.
Ben écoute, je vais enfoncer le clou parce que moi je vais recommander pour ceux qui veulent en savoir plus sur Mamoru Hosoda. Il y a un livre aux éditions Ennis qui vient de sortir, qui est le premier livre en français sur Mamoru Hosoda. Voilà, ça s'appelle Mamoru Hosoda, réalité augmentée. C'est aux éditions Ennis en partenariat avec Animeland.
Ok, Marie.
Moi je vais recommander Sex Education, la nouvelle série de Netflix que j'ai trouvé extrêmement bien réalisée, très bien rythmée, très bien jouée et très très belle visuellement, et le concept est chouette.
Ok, Gus.
Eh ben, moi je vais recommander un film d'animation japonais qui est pas mal, qui s'appelle Mirai, qui est assez chouette.
Ça parle de
parce que
quoi,
je pense qu'ils font, c'est le coup. Ça parle d'enfants et de cris et de pleurs.
Pleurs, oui, c'est ça. Oui.
Moi, je vais dérecommander L'Ami Prodigieuse, la série, pas le livre. J'avais beaucoup aimé le livre. Et en fait, je trouve que la série n'apporte rien. En fait, c'est un peu un copier-coller en moins bien.
C'est con, parce que je comptais lire le livre. Et je me suis dit, mais non, il y a une série. Je ne sais pas faire ça.
Lis le livre.
Ah, ok, très bien. Fiona,
Je peux en avoir deux?
Oui, tu peux.
Merci.
Parce que Gus n'en a pas vraiment.
Si, c'est une vraie recommandation. Allez-y.
Je vais dérecommander le film I Feel Good, qui est déjà sorti il y a un moment avec Jean Dujardin. Je crois que c'est de Delépine et Kervin, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref.
Kervin,
pardon. J'ai trouvé ça extrêmement poussif et décalé, forcé. Je crois que c'était pas une démarche sincère du tout. J'ai eu l'impression que c'était pas une démarche sincère du tout, peut-être que je me trompe. Et je trouvais que ça tournait en ridicule les personnages qu'ils voulaient sauver. Enfin, j'ai vraiment pas accroché.
On voit le dégoût. Hein.
Non, j'ai vraiment pas accroché. Après, je pense qu'il y en a qui peuvent adorer, mais moi, vraiment pas. Voilà. Okay. C'était pas du tout mon truc. Je fais quand même ma deuxième.
Allez,
ça me fait tellement plaisir de pas être le seul, Fiona. Merci.
Et je voudrais recommander un film que, pour le coup, je comprendrais très bien qu'on déteste, qui est Guy de Alex Lutz, avec Alex Lutz. C'est un film, c'est un faux documentaire sur un faux chanteur vieillissant, style Claude François s'il était pas mort, quoi. Et donc ça raconte juste un peu, voilà, ce faux documentaire sur ce vieux chanteur fictif, et c'est assez touchant, et c'est, enfin, on a vraiment l'impression qu'il existait. On se demande à la fin, on se dit un peu, c'est dommage qu'il n'existe pas, ce mec. Voilà, touchant, mais par contre, c'est vraiment pas pour tout le monde.
Ok, ben moi, je vais recommander un film Netflix qui s'appelle Bird Box, que vous avez sûrement tous vu, où ça se passe dans un monde où dès qu'on regarde à l'extérieur, eh ben, on est obligé de mettre un bandeau, sinon on meurt. Et pourquoi je voulais en parler? Parce que ce film est souvent comparé avec Sans un bruit, cette espèce de merde infâme qui était cette dernière, où je trouvais que les antagonistes et l'enjeu n'étaient pas assez forts, parce que les monstres sont particulièrement stupides. Jim, le héros, est caractérisé comme un mec qui s'est bricolé, il aurait foutu un haut-parleur et des mines, c'était terminé. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas croire à ce film. Alors que ce film, qui est un peu le même genre, parce qu'en gros ça nous prive d'un sens, eh ben, ce film est beaucoup mieux géré, parce que déjà le sens de la vue, c'est beaucoup plus grave que de perdre le sens de la parole. Il trouve des petites astuces pour gérer comment se déplacer dans la ville, et surtout, il y a une première menace, et attention, mini spoil, si vous voulez pas entendre, mais c'est un mini spoil, c'est qu'en plus, il y a des espèces de drogués qui, eux, ne sont pas morts et qui obligent les gens à ouvrir les yeux. Donc la menace est absolument partout. Et c'est pour ça que ce film, il y a une tension qui est vraiment réussie, on se demande vraiment comment elle va s'en sortir, et en plus, il y a une espèce de suspense sur les deux enfants pour savoir lequel est le tien, et ça aussi, c'était très bien fait. Donc c'est pas le meilleur film.
Il n'y a pas de suspense.
S'il y a un suspense, on sait.
Sur lequel est le sien, il n'y a que toi qui n'as pas compris. Hein,
Ah, c'est vrai, t'avais compris.
Mais oui,
mais tu comprends tout.
La petite, elle ressemble exactement à l'autre mère. Enfin, genre c'est la même tête.
Donc là par contre j'ai mini spoil, toi tu viens tout spoiler.
Mais c'est pas un spoil parce qu'il n'y avait pas de mystère là-dessus. Je suis désolée.
Non, c'est écrit bon, de façon cas, que ce soit mystère.
Sans un bruit, c'est pas juste le sens de la parole, c'est le moindre petit bruit. Et je trouvais que Bird Box est aussi la tension est vraiment très bien gérée, mais par contre rien n'est résolu, le mystère marche pas du tout et que son évolution de personnage est vraiment ridicule.
Je crois que tu avais une idée pour résoudre.
Oui, j'avais une idée pour sauver les enfants, très facile. Oui, comme ils viennent, quand ils viennent de naître, tu leur crèves les yeux.
Eh bien, merci Fiona pour ce bon conseil parental. Oui, Gus ?
Non, rien, je voulais remercier Fiona aussi pour cette super.
Attends, mais
tu
vois quelque chose dehors, tu meurs. Bah, les aveugles, ils n'ont pas le problème. Et d'ailleurs, c'est la résolution du film.
Ah, mais on avait dit mini spoil, on avait dit.
Ah, oui, pardon. C'est un film pour la tension, c'est pas un film de scénario vraiment.
Oui,
de tension.
Voilà. Et donc, c'est pas le meilleur film de l'année, mais honnêtement, ça vaut le coup d'œil. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de C'est quoi le pitch. Et on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt.